Je vais vous proposer une approche qui, a priori, paraît tout à fait différente. Vous allez voir qu'on va se retrouver sur un certain nombre de points. J'ai préparé plein de diapos, donc on n'ira sûrement pas jusqu'au bout. Bon, alors je vais vous résumer très vite. Qu'est-ce qu'un déchet? Donc, du balatin déchier, ce qui montre bien toute la... tout le côté extrêmement péjoratif, hein, déchoir, déche, déchéance, décrépitude, il n'y a rien de positif là-dedans, normalement. Donc, toutes les définitions sont basées sur la perte de qualité. Hein, le côté rebut, hein, ce qui tombe d'une matière qu'on travaille comme un résidu inutilisable, etc. Donc, a priori, il n'y a pas de marché. Malgré tout, finalement, si on se repositionne dans l'histoire même récente de l'humanité, j'envoyais le mot avatar depuis très longtemps, puis je fais ce cours, il est redevenu très à la mode ces derniers temps, hein. Mais c'est un avatar dans l'histoire de l'humanité, c'est, allez, même en élargissant, 40 ans. 40 ans d'histoire de l'humanité que la culture du jetable et de la production de déchets, avant tout était réutilisé, recyclé. J'avais mis un petit lien à Internet, mais sur YouTube, il y a la mère Denis, il y a un site web, je suis allé voir, j'ai entendu ça hier à la radio, rendez-nous-mère-denis.com. Rendez-nous-mère-denis.com, et vous avez la mère Denis, et qui dit « Quand j'étais jeune, on ne gâchait rien. » Et c'est vrai. Un petit jalon historique, 1884, Eugène Poubelle. Qui fait poser donc, des bacs pour les déchets dans les rues de Paris, avec notamment un bac où j'ai jamais trouvé la véritable explication, hein, qui dit que là-dedans il doit aller la porcelaine et les coquilles d'huîtres. Donc les étrangers pensent que les Français ne mangent que des escargots et des huîtres. Petite explication, peut-être, c'est que la nacre, ça a un aspect proche de la porcelaine, et surtout que quand vous mettez des coquilles sur un tas de fumier, mais pas vraiment l'impression que ça se dégrade, c'est très très lent. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Voilà ce que ça donnait, hein, les camions de collecte, là vous voyez, c'est à Rouen, au début du siècle précédent. Et donc finalement on peut se dire que les Parisiens, malgré tout ce qu'on en pense et tout ce que les étrangers peuvent penser des Français, de leur saleté, leur comportement vis-à-vis des déchets, ont inventé la collecte sélective il y a un siècle, un quart, hein, 1884, là-dedans. Alors, de tout temps, on a recyclé, réutilisé, et beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Voilà une affiche intéressante, hein, qui a un objectif un peu particulier. Hein, l'effort de guerre aux États-Unis, recycler les huiles alimentaires pour fabriquer des explosifs. Donc, on voit, on peut recycler pour faire énormément de choses. Cette photo-là, on la regardera peut-être tout à l'heure ou mémorisez-la. On n'a pas l'impression que grand-chose ait changé depuis donc 1905. Et pas seulement, à part les moustaches, hein, pas seulement le côté convoyeur, parce que quand vous lisez le texte, vous voyez que ce sont des immigrants, donc les basses catégories sociales, qui trient des matériaux marketable, donc des choses qui sont revendables. Hein, pour les mettre sur le marché en amont d'un incinérateur. Donc, pas grand-chose à changer. Vous enlevez les moustaches et vous mettez la photo en couleur. Vous n'êtes pas loin du tri d'aujourd'hui. Alors, situation mondiale. Donc, 1,25 billion de tonnes. Ça fait en gros 1000 fois ce que produisent les Français. Donc, vous pouvez vous dire qu'inversement, nous 64 millions, nous produisons des déchets comme si tout le monde faisait comme nous, on serait 64 milliards. Donc là, on n'est pas à 3 planètes, on est à 10 planètes en termes de production de déchets par le Français qui n'est pas le plus gros producteur. Hein. Il y a pire que nous. Alors, je vais essayer d'attirer votre attention dans tous les domaines à chaque fois sur une alternance entre des oui mais ou à chaque fois prêcher le pour et le contre. Exemple, certes, plus on est riche, plus on consomme, plus on consomme, plus on produit de déchets. C'est la même chose pour l'eau que l'on consomme, c'est la même chose pour l'énergie qu'on consomme. Et plus on est urbain, plus on consomme. Parce qu'on divise par nombre d'habitants, et puis voilà, et on constate qu'effectivement, c'est aussi plus on est urbain, plus on est riche, et plus on est équipé, par exemple. Mais vous voyez, de temps en temps, il y a des surprises. Vous voyez, tout de suite derrière l'Europe des 15, vous avez la Turquie. Que je sache, ils ne sont pas plus riches que les Japonais. Et puis, inversement, vous voyez, justement, pire que le Japon, assez loin derrière, Singapour ou la Corée du Sud. C'est-à-dire qu'on peut aussi être riche et avoir entamé une démarche où on essaie de produire moins de déchets. Alors, dans l'analyse de cycle de vie, on parlait de fin de vie. Bah, la fin de vie, plus uniquement le tout petit bout de la lorgnette du côté déchets. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, c'est à peu près le même schéma partout. Ça va être de dire quelles sont les grandes voies possibles. La mise en décharge, la mise en centre de stockage, le dépôt quelque part, on va dire. Parce que décharge est quand même extrêmement péjoratif. Pour ça qu'on n'utilise plus. L'incinération, alors avec ou sans récupération d'énergie, bah, sans, c'est un peu stupide. Ça ne se pratique plus. Ou recyclage. Et puis, n'apparaît pas, s'il apparaît là-bas complètement à droite, la valorisation des déchets organiques, c'est-à-dire toute la partie compostage ou méthanisation. Il n'y a rien à inventer, hein. Il y a simplement, effectivement, plusieurs voies qui coexistent en parallèle. Alors, un petit zoom sur l'Europe. On va retrouver, finalement, des cas un peu particuliers, un peu originaux, avec donc des contrastes de diversité. A priori, donc, les Nordiques riches sont des gros consommateurs, mais ils ont aussi une grosse conscience environnementale. Malgré tout, vous voyez que les leaders hein, dans la production de déchets municipaux et en kilos par tête et par an, bah, c'est les Norvégiens et les Danois. On pourrait penser a priori que ces gens ayant une grande conscience environnementale produisent moins de déchets. Et non, ils ne produisent pas moins de déchets parce qu'ils consomment beaucoup. Inversement, des pauvres, entre guillemets, de l'Europe, produisent beaucoup de déchets parce qu'ils sont encore dans une étape qui correspondrait, on va dire, peut-être à nos années 70. Chypre, vous voyez le classement, il est arbitré quand même. Hein. C'est pire qu'au football. Hein. Norvège, Danemark, Irlande, Chypre. Original. Et si vous reprenez des gens extrêmement proches les uns des autres, que sont donc les Scandinaves, que je connais un petit peu, c'est pour ça que j'insiste sur eux, mais ils sont intéressants aussi pour ça, parce que vous voyez que vous avez presque à l'autre bout de l'échelle les Suédois et les Finlandais. On peut vraiment difficilement faire des cas généraux à partir de ça. Puis vous retrouvez inversement également dans les peu producteurs de déchets. Donc on pourrait se dire, vous voyez, c'est là on peut difficilement faire des cas généraux en disant, bah, ils sont pauvres, donc, entre guillemets, hein, donc ils produisent moins de déchets. Vous voyez, à un bout de l'échelle, vous voyez, la Grèce et le Portugal. Mais les Turcs, ils sont là-bas, au bout à gauche. Ah oui, c'était pas dans ceux-là, c'était dans celui d'avant. Hein, mais Chypre, vous voyez, ils sont là. Autrement dit, il n'y a pas une vérité dans le... Dans la production, il n'y a pas une vérité non plus dans les voies de traitement. Malgré tout, celui-ci, le schéma, il est presque plus cohérent. En marron, la mise en décharge. En vert, le compostage de déchets organiques. En rouge, l'incinération. En bleu, le recyclage. Malgré tout, là, il y a... Il faut toujours se méfier. Je pense que là, il n'y a pas de surprise. Les pauvres sont à gauche. Parce que mettre en décharge, ça ne nécessite pas de technologie. Chez nous, ça coûte cher parce qu'on met des taxes dessus. Mais quand vous ne souhaitez pas contrôler, quand vous voulez faire ça pas très bien, de notre point de vue, c'est ce qui coûte le moins cher. Donc vous avez tous les pays pauvres à gauche. Puis, Les riches, ils se payent de la technologie. Ils se payent de la technologie pour incinérer avec un maximum de précautions. Ils mettent en place des politiques de recyclage. Ils ont une grosse communication envers leur population, on va y revenir, pour composter les déchets organiques. Et donc, vous avez à droite les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la Suède, le Danemark, l'Autriche. Vous voyez, les riches à droite. Celui-là, c'est le plus cohérent de tous. Et vous voyez que, du coup, ça fait des grandes disparités. Là-dessus, on superpose les deux, les quantités produites et la façon de traiter. Bizarrement, les champions du monde, les champions d'Europe de la production de déchets sont les Irlandais. Les Irlandais ont un comportement de nouveaux riches. Les Irlandais sont riches depuis peu. Il y a 30 ans, c'était les plus pauvres d'Europe. Ils ont un comportement de nouveaux riches, c'est-à-dire qu'ils consomment énormément, ils achètent énormément de bazar, et ils achètent énormément de trucs suremballés, et ils produisent énormément de déchets. Et vous voyez, on retrouve, donc c'est une autre façon de le présenter, hein, on retrouve les filières d'élimination. Ce n'est pas forcément les plus pauvres qui mettent systématiquement en décharge, hein, c'est rouge la décharge. On retrouve par exemple, bizarrement, les Finlandais parmi des gros déchargeurs. Alors, malgré tout, il y a quand même des grandes idées qu'on peut tirer, c'est que les choix sont éventuellement donc économiques. Hein, les pauvres, pas de traitement, la décharge. Mais là, au niveau de l'OCDE, hein, là c'est toute l'Europe, c'est l'OCDE, vous retrouvez la Nouvelle-Zélande parmi les pays, les ex-pays de l'Est, hein, et les pays émergents, vous avez la Nouvelle-Zélande. Alors qu'en plus, on peut se dire que ce qu'on pense savoir des Néo-Zélandais, c'est que c'est des gens qui sont extrêmement attachés à l'environnement, il y a des parcs naturels partout, ils font de la décharge. Le choix, il peut aussi être stratégique. Stratégique, là, c'est à propos de l'incinération. C'est, par exemple, là, parmi les pays leaders, vous retrouvez le Japon, le Danemark, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique. Eux, vous savez que s'ils incinèrent, c'est parce que, d'abord, ils ont les moyens financiers et techniques et qu'ils manquent de place. Donc, là, c'est la stratégie, pas de place, mais j'ai les sous, et j'ai les sous pour payer la technologie. Alors le Danemark c'est petit, mais ça a aussi une autre préoccupation qui rejoint celle de la Suède, qui va être la valorisation énergétique. La Suède, de la place, ils en ont. Hein. S'ils voulaient mettre en décharge, ce qu'ils faisaient jusqu'au milieu des années 80, personne ne les voit à leur décharge. En parallèle, en symétrique avec la décharge de tout à l'heure, celui de décharge de tout à l'heure, le recyclage, la politique de recyclage, là aussi, est très cohérente. C'est les politiques de recyclage qu'ils appellent organisées, structurées. C'est affaire des riches, Corée du Sud, Suède, et Suisse. Et puis, là, vous avez l'Irlande, qui est en train de mettre en place une politique de recyclage, parce que justement, ils se sont tapés sur les doigts parce qu'ils produisent trop de déchets, et qu'ils avaient trop de déchets.
Là, ça vaut le coup de vraiment souligner l'organisé. Je pense que c'est pas anodin celui-là, parce que dans les pays les plus pauvres, il y a des circuits de recyclage qui sont spontanés. D'accord.
Ça vient juste derrière, voilà, c'était le but. C'est une économie informelle donc qui nourrit des millions de personnes. Quelques photos que je fais, mes enfants me disent, mais tu me s'emmerdes avec tes photos de poubelle et tout ça, de vacances. Alors là, c'est pas en vacances, c'est en mission, mais c'est pareil, au Caire, voilà, à Bangkok. Ça, c'est extraordinaire, le monsieur, là, il passe ses journées à écrabouiller des bouteilles en plastique. Il compacte des bouteilles en PET. Il revend des grands sacs de bouteilles de PET. Ou en Chine, voilà, organisation, même chose, un petit centre de tri, de recyclage de bouteilles. Alors, collecter, c'est communiquer. Alors ça, c'est important. C'est important parce que pendant des années, on a communiqué... un peu n'importe comment en France dans ce domaine-là, avant de s'apercevoir qu'il fallait se recentrer. C'est-à-dire qu'on a mis là 15 ans à communiquer. Alors là, c'est le Grand Lyon avec des bacs verts. Ça, c'était en Savoie avec des bacs bleus et des bacs marrons. Qu'est-ce que j'ai encore en magasin? À Paris. À Paris, avec des bacs, ils sont tous verts. De toute façon, même le bac le plus infâme, il est vert. Juste le couvercle qui change. Hein. L'incinérable est un beau bac vert. Et au bout de 15 ans de tout ça, Eco-Emballage a dit on va vous financer pour que vous fassiez tous pareil. Il a fallu 15 ans pour s'apercevoir que d'abord les Français étaient un peu mobiles, quand même, hein, et que si effectivement d'une commune à l'autre c'était différent, on allait avoir du mal à avoir une stratégie et une communication globale. Alors, disparate pendant des années, on a rattrapé le coup, et maintenant donc la poubelle jaune, c'est à peu près la couvercle jaune. J'ai vu ici tout à l'heure qu'il y en avait des toutes jaunes, mais jaune de chez jaune. C'était pas le jaune du Eco-Emballage. Ou maintenant le sac plastique. Alors, je vais insister avec plusieurs exemples de ce que j'ai baptisé donc le low-tech versus high-tech. Parce que c'est pas parce qu'on est dans des écoles d'ingénieurs qu'il faut se focaliser sur la high-tech. C'est parfois ce qui permet de résoudre les problèmes. Exemple. Le petit opercule, ces petites ouvertures sur les couvercles de conteneurs. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça a permis? Ben voilà ce que ça a permis. Alors là, c'est corrélé à 150%. Hein. Pourcentage de refus de tri sur le centre de tri, donc hein, là où vont les conteneurs jaunes. Donc, le refus, ben, c'est ce qui n'est pas recyclable. Évolution du pourcentage de refus de tri. Sur donc, le centre de tri de Chambéry, où sur l'année 2003, entre avril et septembre, on a progressivement mis en place le petit couvercle. Il est de 1, le coefficient de régression, il n'y a pas de problème. Hein. On passe de 60% de taux de refus à 20% de taux de refus. Alors que ce qu'on appelle commune, là, c'est les communes alentours. Autour de 5-10%. L'explication, c'est quoi? C'est tout con. Hein. C'est quand vous aviez des conteneurs avec un grand couvercle. Les gens venaient avec leur grand sac, ils ne réfléchissaient pas, ils baignaient tout. Maintenant, vous avez vu la petite porte qu'il y a? C'est chiant. Hein. C'est sûr que ça regarde le monde, mais ça marche, du tonnerre. Ça a coûté 50 fois moins cher que de faire une politique de communication. C'est que les gens, ils descendent avec leur grand sac, ils sont obligés d'ouvrir le petit opercule, puis là, ils prennent un tétrapack. Et là, le tétrapack, il va là. Hop, un petit machin en carton. Ah, voilà. Après, une bouteille. Ah non, la bouteille, elle ne va pas là. Réfléchissez. Pourquoi ça marchait super bien dans les communes alentours? Bah, c'est tout simplement que dans les communes alentours, on n'a pas un conteneur, mais on a les bulles. On a les bulles d'apport volontaire. Il faut quand même être soit très con, soit hyper vicieux. Pour déjà faire la démarche de transporter ses déchets jusqu'aux bulles, de s'arrêter et là, de mettre le papier dans le conteneur à verre, les tétrapacks dans le conteneur à papier et le verre dans le conteneur à tétrapack. Les mal comprenants, il y en a, mais à ce point-là. Hein, et vous voyez que ça marche pareil, hein, ça marche parfaitement, j'ai dû la remettre. Ouais. Et on voit la petite dérive de juillet-août, ça c'est quand il y a les Parisiens. Il y a plus de mal comprenants parisiens. Donc, vous voyez, hein, ou de pervers, j'avais pas pensé. Impeccable, hein, low-tech, ça marche très bien. Et maintenant, du coup, bah, on met des bornes, même en ville. On est en train d'évoluer, on met des bulles, ou on met des bulles enterrées, hein, des bornes de collecte. Tout simplement parce qu'on a constaté ça. On voit que le taux de captation n'est pas mauvais, mais surtout la qualité est parfaite. Quand vous avez 5% de taux de refus, c'est que dalle, quoi. Quand vous avez 5% d'autre chose que du verre dans une bulle de verre, vous avez gagné votre journée. Hein. C'est Annecy qui a innové ça. C'est Annecy qui avait lancé ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un gros problème. C'était comment collecter le verre dans le centre historique. Et le gros apport, le deuxième gros apport sur la bulle de verre, c'est un truc tout con, c'est l'acoustique. Parce que quand vous avez un mec qui, à 11h du soir, vient vider une caisse entière de bouteilles,
faut.
Le 12, faut pas l'avoir à la maison pour pas s'en servir, quoi. Parce que sinon, vous vous mettez à la fenêtre et vous tirez dans le tas. Hein. Le meilleur moyen de pas se servir d'une arme, c'est effectivement de pas en avoir. Donc, ça a été un des avantages corollaires de ça. Donc, maintenant, vous commencez à avoir en ville des bulles de collecte, enterrées pour qu'elles soient discrètes, mais justement parce que on voit bien que l'efficacité est bien plus grande. Parce que finalement, ne viennent dans les bulles que les gens qui ont envie d'y venir.
Juste sur la méthode de collecte après, comment, si c'est
enterré, comment on voit l'électricité? Ah, c'est tout con, tu vois, là, il y a un anneau, le camion il arrive là, tout ça, toute cette embase est solidaire. Il soulève le tout, hop, il le met sur le camion Ben, et là, clap, on ouvre le fond. C'est préfabriqué, hein, ça c'est dans un cube en béton, exactement comme à Regard d'Égout. Donc un cube en béton préfabriqué qui est posé dans le trou, et on a donc cette espèce de panier qui est à l'intérieur. Alors, quelques mots de réduction à la source. La loi, la fameuse loi de 92, celle qui disait zéro décharge 2002, raccourci de journaliste, elle aurait pu favoriser la réduction à la source. Et elle aurait pu. Ça n'a pas été le choix français. On a continué de faire de l'emballage, du sur-emballage, et payer l'éco-taxe, payer le grünepunkt, hein, payer le point vert pour l'éco-emballage. On a donc préféré laisser faire et traiter a posteriori que résoudre le problème a priori. Malgré tout, une réduction à la source s'est opérée. Voilà quelques taux de réduction. Alors, depuis 10 ans, ça devait être au début des années 2000, hein, c'est un peu plus ancien ce document. Il y a eu de la réduction de masse. Il y a eu de la réduction de volume aussi. Hein, on en parlait tout à l'heure pour les problèmes de transport. En réorganisant la logistique, en réorganisant les emballages, on a gagné de la place. Il faut savoir que c'est très rare, notamment dans le transport de denrées. Alimentaire ou un 40 tonnes fait jamais, est jamais plein, il fait jamais 40 tonnes. Hein. Il transporte 33 palettes, mais il ne transporte jamais 40 tonnes. Donc le problème est plus un problème de transport de volume. On ne transporte pas de pondéreuse spécifiquement, à part la lessive en poudre, hein, mais encore, c'est pas extrêmement lourd. Donc quand vous transportez du yaourt ou des brownies, vous transportez surtout du volume. Vous transportez 33 palettes. Regardez, une incidence qu'on évoque assez rarement, du passage, du fameux passage de la bouteille PVC à la bouteille en PET. Comme le PET a de meilleures caractéristiques mécaniques, on a économisé 10 grammes par bouteille. Vous imaginez ce que ça représente? Je serais curieux qu'un jour quelqu'un fasse le calcul en termes de CO2, uniquement hein, sur ces 10 grammes sur 45, qu'on a gagné en passant PVC au PET, outre le changement de résine, etc. Là, il y a du boulot d'ingénieur, parce qu'il y a la forme aussi, hein, il y a la répartition des efforts, il y a du calcul de structure sur le bocal du jus d'orange, là, vous voyez, 30 grammes gagnés sur la bouteille elle-même, simplement par un meilleur calcul de la répartition des efforts, la diminution notamment de l'épaisseur du culot de la bouteille, en faisant des progrès d'ingénieurs. Bon, est-ce que c'est si spectaculaire que ça? Alors, comme je viens de déménager, j'ai retrouvé des tas de trucs, j'en ai d'autant plus retrouvé, je garde tout, et j'ai retrouvé donc mon premier portable. Et donc, la semaine dernière, en préparant ce cours, j'ai sorti la balance de cuisine, j'ai sorti mon mètre et tout, puis j'ai fait un petit calcul. Donc, mon premier portable est l'actuel, celui-là. C'est sa boîte. Réduction de volume de l'emballage, moins 44%. Réduction en masse, moins 70%. Pas mal. Notamment, c'est la barquette qui est à l'intérieur de la boîte, qui était relativement épaisse, rigide, une espèce de gros carton épais. Sur mon premier Motorola. Alors, ça a l'air pas mal. Sauf que le téléphone lui-même, vous voyez la taille de l'engin, ceci dit, regardez les vôtres, on est en train d'y revenir au gros. Hein. Moi, celui-là, je le garde précieusement. Il a la taille de la poche ticket du jean. Je vais essayer de ne pas le perdre. Je n'en rachèterai pas un plus gros. Pour moi, c'est la taille qui convient. Mais vous voyez que les Blackberry, machin, c'est en train de revenir au gros j'avais il y a 10 ans. Sauf qu'en termes de volume, lui, le téléphone, il s'est réduit de 82%. En basse, il s'est réduit de 70%. Ce qui fait que quand vous comparez, et ça m'a sidéré, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Je ne sais pas si c'est un hasard. Si vous faites le ratio massique du téléphone sur l'emballage, ça a bougé à la décimale. On est toujours au même ratio, 30%. Par contre, le ratio en volume, il s'est considérablement dégradé.
Il ne faut pas oublier aussi les accessoires qui sont à l'intérieur. Les accessoires qui sont à l'intérieur. Il y a toujours des petits accessoires,
ouais.
Des chargeurs ou autres.
Ouais. Ça peut quand même changer. Ça ne doit pas changer énormément les. Mais on s'en fout de toute façon, parce que ce qui compte, c'est le volume que je transporte. C'est-à-dire que ce ratio qui s'est considérablement dégradé, hein, d'un facteur 3, c'est du délire, quoi. Je vous rappelle qu'un SMI transporte du volume, 33 palettes, pas une de plus. Et dans 33 palettes de téléphone, il n'y a pas 40 tonnes. Hein. Comme quoi, on ne progresse pas toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est arrivé sur le téléphone portable au complexe du bijoutier. Le complexe du bijoutier, c'est-à-dire que faut quand même que vous ayez la sensation d'en avoir pour vos thunes. Donc faut surtout acheter de la boîte, quoi. Parce que un collier, une bague, c'est pas gros. Mais bon, c'est un peu cher. Bon, les filles, elles savent pas, parce que c'est les garçons qui leur offrent normalement. Mais donc du coup, il y a une grosse boîte. Vous savez, c'est comme quand on est môme, faut que les jouets ils aient des gros emballages. C'est important l'emballage. Donc on en est à ce complexe-là aujourd'hui, je veux dire, sur le cas du téléphone. Donc comme je disais, un train, un camion, ça transporte du volume. Ça, vous pouvez expérimenter vous-même. Ça, c'est au Leclerc de chez moi. Comme ils ne remplissent pas la nuit, on peut les voir faire. Et les suremballages générés, là notamment au rayon frais, hein, ça c'est un grand classique, les yaourts, tous les cartons que vous pouvez avoir de suremballage. Alors, il y a l'outil législatif, il y a le financement, il y a la collecte, donc il faut trier derrière. Alors là, deuxième exemple de low-tech versus high-tech, les convoyeurs, le transport par convoyeur, les trieuses ou les trieurs, qui ont une grande expertise, hein. Il y a la notion d'expertise humaine importante. Et puis à côté de ça, la haute technologie, hein, le tri de l'aluminium par machine à courant de Foucault. Donc ça vient un truc que vous avez tous appris, parce que ça fait quand même vachement plaisir aux profs de physique en prépa, hein, la machine à courant de Foucault. C'est de la haute technologie. L'usage essentiel est donc de trier l'aluminium. C'est bien, hein? Non, c'est vachement intéressant. Je veux dire que ça amène, par exemple, une autre technologie importante qu'on ne voit pas ici, un truc tout con. Vous savez mieux que moi, parce que moi, j'ai modestement fait un IUT, donc je n'ai pas fait de prépa, donc je n'écris pas d'équations, c'est pour ça que j'enseigne le traitement de déchets. Ça nécessite aussi une super désaimantation avant. Hein, faut bien déferrailler avant. Parce que là, vous avez un bout de ferraille, qu'est-ce qu'il va faire? La virole, elle tourne très vite, là. Elle tourne à 3000 tours. Là, ça tourne plus lentement, vous avez le tapis. Si vous avez une capsule de bière, la capsule de bière, elle va rester sur le tapis, là. Elle va frotter sur le tapis. Parce qu'elle est attirée par l'aimant. Hein, par l'aimant tournant qui est là-dedans. Et en plus, donc non seulement elle est là, il va y avoir abrasion mécanique, mais elle chauffe. Elle finit par être rouge et elle brûle le tapis. Donc si vous voulez séparer de l'aluminium avec une machine à courant de Foucault, faut avoir avant un super déferraillage. C'est de la très haute technologie, hein, tout ça. Parce qu'en plus, ces bécanes, c'est hyper fragile. Et vous imaginez en milieu, notamment derrière incinération, c'est pas évident. Ils les démontent toutes les semaines sur quand ils font la récupération de l'alu incinéré, l'alu post-incinération en usine d'incinération. toutes les semaines, il démonte entièrement la machine à jour en Foucault. Il nettoie tout ça pour que ça marche bien. Bon, ça vous savez, c'est ce que vous avez appris. Hein, on obtient un signal, machin, différent, suivant ce que c'est. Donc ça permet de faire du tri. C'est super bien, c'est super sympa. C'est bien compliqué. Il y a d'autres techniques qui sont des détecteurs optiques. Donc on détecte ici, en X, tel objet. On connaît la vitesse du tapis. À Y, on a une soufflette à air comprimé. Donc le bazar, il déclenche la soufflette quand l'objet arrive devant la soufflette. Ça marche impeccable. Vous voyez voler les boîtes d'un côté, les bouteilles de PVC, de PET. Ça marche super bien. C'est le même schéma. Au fait, pourquoi on insiste sur l'aluminium? Ben, l'aluminium, c'est un gros intérêt. Vous voyez que refondre de l'aluminium, ben, ça consomme 20 fois moins d'énergie que de fabriquer de l'aluminium neuf. Donc, même si la bauxite était illimitée, même sans raisonner en termes de recyclage de matière, produire de l'aluminium neuf consomme 20 fois plus d'énergie que recycler de l'aluminium. Alors voilà par exemple une campagne de pub de l'année dernière sur les attributs par éco-emballage, 15 canettes, 1 kg de CO2. Ça c'était le côté high-tech, le low-tech, il marche super bien aussi. Hein. La dame là à Bangkok, là, elle savait très bien trier les canettes alu et les canettes acier. Hein. Pas de problème. Hein. Elle faisait aussi bien que la machine. Alors, comme je vous disais, je traîne pas mal dans les pays nordiques, donc je connais un peu l'exemple suédois, et pour montrer aux Français que notre situation n'est pas, comment dire, irrémédiable, dans les années 80, ils mettaient en décharge. Ils avaient de la place. Hein. Le nord de la Suède, c'est 2 habitants au kilomètre carré. Hein. C'est comme le Montana. Donc, il y a intérêt à savoir parler l'élan, sinon, on ne causait à personne. Hein. Mais, pas fou, il est planqué dans la forêt. Les décharges, on ne les voyait pas. Elles étaient toujours entourées de forêt.
Est-ce que c'est pas juste par les propriétés de la forêt à absorber ce
vide ? Non. Non, non. Là, ils étaient comme nous, ils étaient cons. Hein. Voilà. Ils ne s'embêtaient pas avec ça. Ce n'était pas leur souci. Allez, troisième low-tech versus high-tech. Comment ils font aujourd'hui ? Deux sacs. Un sac noir pour les déchets organiques. Un sac blanc pour les déchets non organiques, non recyclables. C'est-à-dire que vous avez déjà, dans votre tête, vous vous êtes mis dans la démarche du Suédois qui, de toute façon, tout ce qui est recyclable, il l'amène dans les conteneurs dans la rue. Donc on ne parle déjà là que du reste. Tout ce qui est emballage, vous l'avez amené dans la rue, dans un conteneur. Alors, ces deux sacs sont collectés ensemble. Et on vous dit qu'il faut bien les nouer. Oups, attention, ça veut dire en suédois. Oups, bien les nouer. Alors pourquoi faire simple quand on peut, ou pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, hein? Parce qu'en France, le problème, c'est toujours au sous-sol, machin. Ben là, les conteneurs, ils sont pas laids, ils sont en face de la porte d'entrée. Vous sortez de votre immeuble, tac, hop, vous posez vos sacs. Quand j'ai pris ces photos, elles n'étaient pas exploitables. Après, j'en ai pris à l'intérieur. Et mon collègue m'a dit, il y avait une petite mamie qui passait dans ton dos. J'ai cru qu'elle allait appeler une ambulance. Quoi, en se disant, qu'est-ce qu'il fait la tête dans nos conteneurs tout de même. Bon, si vous faites de l'allemand, vous comprenez le suédois. Ils sont juste un peu dyslexiques. En allemand, c'est Afval. En suédois, c'est Afval. Mais à l'oreille, ça fait pareil. Alors, on me dit toujours, ouais, mais ils sont super bien éduqués. Ouais, ils sont super bien éduqués. Parce qu'on a mis en place ce qu'ils avaient dit qu'ils seraient prêts à faire. C'est-à-dire que les Suédois ont fonctionné dans le sens inverse. Ils ont commencé par enquêter auprès de la population. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Quelle démarche de tri êtes-vous prêt à faire? Les gens ont répondu. On a mis en place ce qu'ils avaient majoritairement dit qu'ils seraient prêts à faire. Donc derrière, ils le font. Et ça marche. n'y a pas un technocrate qui a décidé, puis après on tape sur les doigts des gens ou on dépense des milliards en communication pour dire « Mais si, on vous dit qu'il faut faire comme ça ». Résultat, vous voyez, 95% de la population qui trie au moins aussi bien, si ce n'est mieux qu'on leur demande. Ça, c'est l'exploitant d'usine derrière qui me l'a dit, donc je le crois. Dans le sac noir, qui est le sac de déchets organiques, il y a 95% de matière organique. Pas mal, hein. Moins de 20, alors 20% d'organique dans le sac blanc, mais c'est un peu obligé. Vous jetez la boîte en plastique, le blister en plastique dans lequel il y avait des tranches de jambon. Bon, il reste un peu de jambon, éventuellement. Qu'est-ce que ça devient? Ah oui, alors, voilà, à nouveau du low-tech. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça. Non, ça s'est un peu amélioré, mais moi, quand j'étais ado, les communes, elles distribuaient des grands sacs gris avec leur logo, leur... Mais alors, il fallait aller faire une déclaration en mairie, quoi. Il fallait faire une demande en mairie. Je suis sûr que ça existe encore. Et donc, on vous demandait la surface de votre logement, combien il y a d'habitants dans la maison, le prénom de votre grand-mère, et on vous donnait un certain nombre de sacs pour l'année. Là, c'est tout con, hein. J'ai plus de sacs blancs. Ben, je m'en aperçois avant le dernier. Le dernier, je le noue sur mon conteneur. Et le lendemain matin, en ramassant les rippers, il me pose un rouleau de... Et c'est pas le ripper, c'est mon collègue suédois. Il monte chez lui, et il dit « Ah ouais, tu veux savoir comment on fait? Viens à la maison, je te montre. » Donc voilà, on fait les photos. Et le lendemain, donc, les rippers du camion, le gars, il a un distributeur sac blanc, un distributeur sac noir. J'ai noué un mouchoir blanc, j'ai noué un sac blanc, hop, il me pose un rouleau de sac blanc. C'est tout con. Vous vous rappelez mon usine du Delaware, là? Ça ressemble, hein? Et donc, à l'arrivée de l'usine, les sacs sont triés. Ils sont triés comment? Ils sont... Ben, voilà, j'ai la remise. Les sacs sont triés. Et les sacs sont triés par un système optique. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sacs noirs et des sacs autrement. Puisqu'ils peuvent être blancs, mais si vous en avez un de supermarché, ça le fait aussi. Donc, le système optique laisse passer les sacs noirs et éjecte les autres sur un tapis perpendiculaire. Donc là, c'est la démo de l'usine. Vous avez donc d'un côté les sacs noirs, donc déchets organiques, qui vont aller vers le traitement de déchets organiques, et de l'autre côté, les autres. Et à quoi ça sert le low-tech? Le low-tech de bien faire les nœuds, ça sert à ce que la high-tech fonctionne. Parce que si le sac, il s'ouvre, qu'il était mal noué, ben ça fait ça. Sympa, ça, intéressant à se dire. Il y a un lien quand même entre un toute petite faille dans le système de low-tech et d'une chose qu'on demande aux citoyens. On lui demande un truc précis. On lui demande de faire un truc bien. On lui demande de bien nouer le sac. Et après, la machine se démerde. Les déchets organiques sont méthanisés. Je ne vous fais pas un cours sur la méthanisation. Mais vous savez que ça fait du biogaz. Avec le biogaz, là, on fait circuler les camions poubelles. Un cycle court, on fait circuler les bus, on fait circuler les véhicules de la collectivité locale. Ce qu'ils appellent en suédois le bifuel, qui marche donc au biogaz et à l'essence. Le digesta, c'est-à-dire ce qui reste de solide, c'est co-composté avec les déchets verts et... Il n'y a aucune honte. Il n'y a aucune honte à avoir. Donc, ce compost, il est vendu en sac. On fait des sacs. Là, vous voyez, c'est la ville avec laquelle je travaille, enfin, que je compare avec Chambéry, parce que c'est vraiment très proche, ça s'appelle Boros. Et c'est du Boros compost. Pour emmerder, inventer une marque qui ne veut rien dire. Quoi. C'est le compost de la ville de Boros, et puis basta. Quoi. On sait avec quoi c'est fait. Et c'est du bon compost. Je ne vous ai pas mis la photo, mais quand on va en déchetterie, bah, y a un conteneur. Vous venez avec votre remorque, petite remorque, vous savez, les gens qui coupent des branches, machin, vous venez avec votre petite remorque, vous avez le droit ensuite de repartir en remplissant votre remorque du compost, puisque là-dedans, il y a une partie de vos propres déchets. Pas de problème. Il faut l'écouler, le compost, il faut en faire quelque chose. Vous avez le droit de le remettre dans votre jardin. Les déchets ultimes, c'est-à-dire les sacs blancs, c'est broyé, c'est mélangé avec des pellettes de bois. Bon, là, ils ont un avantage sur nous. Hein. Ils ont de quoi se chauffer avec le bois qu'ils ont. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est hyper intéressant. C'est donc consommation d'énergie sur le réseau de chauffage. Vous allez voir après, 95% des logements raccordés au réseau de chauffage urbain. Autre avantage par rapport au système français. 95%, ça veut dire aussi toutes les maisons individuelles. Les gens, ils n'ont pas ça. Tous les gens qui habitent en maison individuelle, finalement, un jour ou l'autre, ils ont un problème de chaudière, et c'est là qu'ils se disent, putain, mais si j'ai fait raccorder un réseau de chauffage urbain, ce serait quand même pas chaud en pratique. Maison individuelle ne veut pas dire individualiser tous les emmerdements. C'est pas indispensable d'individualiser les emmerdements. Donc le chauffage, il peut être urbain. Chez eux, il est. Alors regardez, 30 mégawatts de déchets. Ça fait déjà tout le réseau de froid, parce qu'il y a un réseau de froid en parallèle, pour alimenter... c'est pas parce qu'ils ont toujours froid qu'ils veulent aussi avoir froid l'été. Hein. C'est pour alimenter les ordinateurs des banques, enfin tous les gens qui ont un réseau de clim, on va dire. Et puis le réseau d'eau chaude sanitaire. Donc vous voyez déjà, de mai à septembre, tout ça c'est produit rien que par les déchets. 10 mégawatts, un truc tout con, on commence à peine à envisager de faire en France, c'est un échangeur sur le réseau des doux. Les eaux usées arrivent en station d'épuration entre 14 et 18 degrés. Vous récupérez 1 degré sur des débits monstrueux. Vous faites MCP delta theta, calculez le flux, vous récupérez des mégawatts. Là, on n'est pas sur Göteborg, on est sur 100 000 habitants. On est sur 100 000 habitants, on récupère 10 mégawatts. Le reste, pellettes de bois, donc ça, parce qu'ils ont, la ressource, déchets de bois, et puis, bon, bah, un petit peu de fuel, quand ça dépasse, vous voyez, ils sont équipés, bon, là, c'est des pannes, et puis, ils se limitent en bois à 130, donc on est à, combien on est à 40, on est limité à 90 MW de bois, s'il faut plus, un petit peu de fuel. Autrement dit, donc 120 000 habitants, on est quasi autonome en énergie. 95% des logements sont alimentés, sont chauffés en énergie renouvelable, puisque le déchet en tant que source d'énergie, bah, c'est renouvelable tant qu'on produira des déchets. Et ça, on en a pour un moment. Un truc que les Français ne comprennent pas, c'est qui est vécu comme un avantage acquis, vous savez, comme des avantages sociaux, des avantages acquis. L'avantage acquis, c'est, dans le langage des collecteurs de déchets, ce qu'on appelle la C6, c'est-à-dire la collecte 6 fois par semaine. Ça fait partie, vous savez, c'est comme l'éclairage urbain, c'est comme la route goudronnée, ça fait partie des avantages de d'être en ville. On est en ville, les poubelles sont ramassées tous les jours. C'est pas indispensable. Je peux vous dire, depuis 2 mois que j'ai déménagé, j'en profite, maintenant je peux tester. Donc je composte dans mon jardin. Effectivement, vous pouvez garder dans votre cuisine pendant une semaine des déchets organiques hors viande, hors poisson. Ça ne sent rien. Même quasiment 2 semaines. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bah, une fois la semaine en centre-ville, je vous rappelle que vous amenez vous-même tout ce qui est emballage. 2 fois par mois en habitat résidentiel, ou 1 fois par mois si vous faites votre propre compost dans votre jardin. Parce que ce n'est pas interdit. Hein. Si vous compostez vous-même dans votre jardin, qu'est-ce qui reste à ramasser? Le fameux petit sac blanc final. Déjà, si on vous ramasse 1 fois par mois, on va vous en ramasser 50 litres à tout casser. Ça ne pose pas de problème. Donc on économise beaucoup sur la collecte. Alors, comment ils font? Effectivement, ils incinèrent, vous allez voir, et en plus, ils incinèrent avec des usines en centre-ville. Pourquoi? Ben parce que on perd énormément à convoyer de la vapeur sur des dizaines de kilomètres. Donc les incinérateurs, ils les ont mis en centre-ville. Il n'y a pas encore eu d'attentat contre un incinérateur. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que le Suédois, bon, je ne sais plus si j'ai peut-être une inversion, là, c'est pas grave, mais soit j'ai une inversion, soit j'ai oublié de la mettre. Le Suédois est honnête. Et donc, on communique, le gestionnaire communique les résultats sur les dioxines ou sur autre chose. Et il n'y a aucune raison de remettre en cause ce qu'il a dit. Il a affiché les résultats de ses mesures, de son suivi environnemental, et ce qu'il affiche est exact. Si un jour il y a une panne, il y a un problème, ben il affiche le lendemain que hier on a eu un problème et on est désolé, mais on a dépassé un petit peu les normes, mais tout est rentré dans l'ordre. Et les gens l'admettent parce qu'ils voient aussi l'avantage de l'autre côté, c'est la production d'énergie. Alors ce qui fait peur dans l'incinération, c'est les dioxines. Démonstration donc de l'origine donc de la, alors une des dioxines, hein, la tétrachlorobenzodioxine 77, mécanisme de formation expliqué en 85, c'est extrêmement intéressant du point de vue épistémologique, du point de vue histoire des sciences, c'est un exemple extraordinaire, très très intéressant que celui-ci, puisque on va voir qu'on est victime du progrès. Parce qu'en fait, ce qui a été démontré, c'est que la production de dioxines, c'est une catalyse hétérogène à basse température sur les cendres. C'est pas grave si vous n'êtes pas chimiste, hein. Vous allez comprendre quand même. C'est pas compliqué. Basse température, ça veut dire que je les ai refroidis, notamment en dessous de 900 degrés. Il y a des cendres et il y a les gaz qui circulent. Les gaz dans lesquels il y a du chlore qui peut fabriquer donc des dioxines. Et cet ensemble, basse température, cendre, plus le chlore, permet la fabrication de dioxines. Autrement dit, c'est une conséquence de ce progrès. C'est parce qu'on s'est mis à lutter contre la pollution atmosphérique en se mettant à filtrer les fumées pour ne pas rejeter de cendre. C'est parce qu'on a voulu récupérer l'énergie en récupérant donc la chaleur qui était dans ces fumées, qu'on s'est mis dans les conditions telles qu'on produisait des dioxines. Un vieil incinérateur crado des années 60 qui crachait de la fumée noire ne produisait pas de dioxines. Là, c'est un petit peu comme le CFC et le trou d'ozone, hein, le trou de la couche d'ozone. Dupont, en 31, quand ils ont inventé le fréon, c'était un super progrès. Parce qu'avant, on faisait du froid à l'ammoniac. L'ammoniac, ça tue. Le fréon, ça ne tue pas. C'est totalement inerte, c'est pas dangereux. Il a fallu 50 ans pour s'apercevoir qu'effectivement, à une autre échelle, que l'échelle humaine ras des pâquerettes, ça avait des conséquences. Mais à l'époque, c'était un progrès. Là, on a fait un gros progrès quand on a récupéré l'énergie et qu'on a craché une fumée pas trop crade. On a fait autre chose, on a généré un peu de dioxyde. Gaz refroidi plus filtration. Je vous rappelle, voilà, on récupère l'énergie aujourd'hui, comme ça qu'on fait. On fait d'abord la valorisation énergétique, puis le traitement des fumées chargées, c'est-à-dire les cendres. Pourquoi on ne fait pas dans l'autre sens ? Ah là, il y a de la high-tech à développer. C'est qu'on ne sait pas très bien filtrer des gaz chauds. Il y a des progrès à faire dans la filtration, dans les matériaux de filtration pour filtrer les gaz chauds. Parce que c'est ça qui serait idéal. Ça, c'est filtrer d'abord, récupérer l'énergie ensuite. Il y a du taf, là. Il y a un peu de recherche à faire là-dedans dans les matériaux céramiques. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un post-traitement au charbon actif. On va venir absorber les dioxines sur les charbons actifs. Petit truc sympa à se poser comme question, c'est les limites intellectuelles ou les limites de recherche auxquelles on est arrivé. La norme 0,1 nanogramme par normomètre cube. À la louche, faites le calcul, ça fait du 10⁻¹⁸, 0,1 nanogramme par normomètre cube, par mètre cube. Quand vous échantez lyonnais, quand vous cherchez à mesurer, il faut être au moins 100 fois plus propre. 10 moins 20. Il n'y a pas sur le marché, donc aujourd'hui, conclusion, il n'y a pas d'appareil qui permette de doser en ligne la dioxine. La seule chose qu'on peut faire, c'est filtrer, accumuler sur un filtre, et un mois plus tard, doser ce qu'il y a dans ce filtre. On sait le débit de gaz qui est passé, on fait le calcul. Alors, un incinérateur de taille moyenne, ça rejette quoi? Taille moyenne en France, c'est ça, hein, 6 tonnes heure, 8000 heures par an, ça fait 100 000 tonnes an. Ça rejette a priori que de la vapeur d'eau. Ça rejette 120 tonnes d'oxyde d'azote, 20 tonnes d'oxyde de soufre, 5 tonnes de CO. Le CO, ça tue, hein. C'est pas comme le CO2. C'est pour ça que le coup, là, le bonus-malus, moi j'enseigne aussi les...
Vous pouvez
revenir
au chiffre juste un peu.
Qu'est-ce que ça Non, c'est parce que... Non, c'est le égal, je suis allé un peu vite. En fait, t'en as deux ou trois des fours en parallèle. On ne fait pas grossir les fours, on en met plusieurs en parallèle. Ça, c'est la taille moyenne d'une usine en France, c'est 100 000 tonnes par an. Donc, tu as deux ou trois fours, ça dépend s'il est un peu plus petit, un peu plus gros. Tu as deux ou trois fours. Oui, ça, c'est la taille du four. La taille moyenne d'un four, c'est 5-6 tonnes. 5-6 tonnes heure. Bon, une année, c'est 8760 heures, donc moins les heures d'arrêt, ça fait 8000 heures par an, hein, quand ça tourne 24 heures sur 24. Donc ça fait l'usine moyenne française. L'usine moyenne allemande, elle fait 250 000 tonnes par an. Il y en a moins, mais du coup, le fameux NIMBY, le Not In My Backyard Syndrome, il concerne moins de gens. Mais au moins, les usines, elles sont plus grosses, forcément. Donc voilà tout ce que je disais que ça produit. Je ne fais pas toute la liste, il y en a un paquet. Mais tout ça, c'est ce que ça produit en respectant la législation et en étant parfaitement aux normes. Personne ne vous donne ces résultats. J'ai fait encore la visite la semaine dernière, on vous dit que ça recrache de l'azote, de la vapeur d'eau. On ne vous donne pas les tonnages, on vous donne des concentrations, parce que c'est très faible en concentration. Mais 100 000 tonnes an, si vous faites le calcul, là, si on fait le calcul par mètre cube, un incinérateur qui traite 100 000 tonnes par an, il crache 2,5 millions de mètres cubes de gaz par jour. Alors, est-ce que les incinérateurs sont les seuls ou les plus gros producteurs de dioxine? Ils sont producteurs de la moitié. D'où vient l'autre moitié? On va le voir après. L'autre truc qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'essentiel des dioxines produites ne sont plus dans les gaz, en pourcentage. Comme ça fait 20 ans qu'on se bat contre les dioxines dans les gaz, il n'y en a pratiquement plus dans les gaz. Donc proportionnellement, le peu, on parle de milligrammes par an, hein, le peu qu'il y a, il est dans les matières solides. 98% aujourd'hui, c'est dans les cendres et les mâches fer. Autrement dit, on continue de s'entretuer pour trois fois rien, des nanogrammes qui ne représentent que 2% du total. Et ça va en sous-couche routière, les mâches fer. Personne n'en cause, on s'intéresse qu'aux métaux lourds. Personne n'en cause parce qu'on ne sait pas les doser. Alors, qui produit des dioxines? Tout de suite, on va se dire, les pollueurs habituels, la chimie, la papeterie, c'est le feu de cheminée. Alors là, je me suis amusé, je suis élu vert en même temps, donc j'ai aucune honte à écrire ce genre de truc. Hein. C'est le feu de cheminée qu'on a vu en rentrant de la manif contre le projet d'incinérateur qui est juste à côté. Feu de cheminée, le feu de bois. Le feu de bois est le second contributeur. Usine d'incinération 255 grammes par an. Combustion résidentielle du bois, 92 grammes. Je ne sais pas si c'est arrivé jusque chez vous, la grande mode de la chaufferie bois ou de la chaudière bois, la chaudière à pelette de bois. Les montagnards en sont friands. Quand on brûle de la pelette bien traitée, bien déshydratée, oui. Quand on brûle n'importe quoi,
D'abord, on va goudronner sa cheminée, il faudra la ramener, mais on va aussi produire des dioxines. Bon, alors, par pays, ça donne ça. Ce qui est amusant là-dedans, c'est que, oui, si vous regardez la liste des pays, bon, il manque juste quelques pays, des petits pays de rien du tout qui polluent pas. La Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil. On n'a pas de données pour ces petits pays-là. Et par tête de pipe, les champions du monde, c'est les Belges. Et ils sont quatrièmes en absolu. Mais ils sont 9 millions, on est 64, ils sont 250, ils sont 160. Donc par tête de pipe, les Belges sont champions du monde. Malgré tout, je continue à dire que, ça, ils aiment, mes copains verts n'aiment pas quand je dis ça, mais il vaut mieux habiter à proximité d'un incinérateur moderne aux normes que de faire tous les samedis un barbecue avec du charbon de bois. C'est vachement meilleur pour votre santé. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai dit trop tôt, donc on passe. Donc, éducation, communication. Alors, nous aussi, on sait communiquer en France. Hein. Communiquer en France, ça consiste à ceci. On parlait d'UIOM, usine d'incinération d'ordures ménagères. Maintenant, ça s'appelle une unité de valorisation énergétique.
C'est beau, la sémantique.
C'est classe, hein. Allez, un peu de positif. Depuis quelques années, je trouve ça c'est très positif, c'est que on utilise le tri de déchets ou le recyclage comme un argument commercial. Ça, vous voyez, c'était une pub de SFR il y a quelques années pour dire, vous savez, c'était au début des forfaits illimités, donc vous n'avez plus besoin de montre, vous pouvez la mettre au recyclage. Aujourd'hui, le recyclage devient même un sujet pour faire un timbre. Alors, on me dit toujours, ouais, mais tu nous présentes des trucs de l'étranger où ça peut marcher facilement, ça ne peut pas marcher en France. Ça peut marcher en France, regardez. Le 2 mai 2005, plus un sac sorti de caisse dans les supermarchés en Savoie. Il n'y a eu aucune contestation. Pourquoi ? Parce que pendant 3 mois avant, il y avait eu toute une communication du Conseil général pour prévenir les gens et leur dire il va falloir venir avec un cabas, il va falloir y penser, etc. Bon, alors, tiens, on va conclure sur celui-là. Parce que ça nous permet de boucler avec ce que vous racontez, Tatiana, sur le monde du cycle de vie. Nos amis allemands, pendant des années, nous ont tapé dessus avec nos sacs sortis de caisse en plastique, parce qu'eux, ils avaient des beaux sacs en papier craft. Des poches, comme on dit dans le sud de la France. Alors, voilà l'analyse du cycle de vie de différents types de sacs. Et vous voyez qu'on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du comparatif. Mais l'important, c'est effectivement de comparer les mêmes facteurs. Alors le seul truc qui est un peu gênant dans ce schéma, c'est l'artiste de chez l'éditeur de cette revue qui a mis en vert ce qui est négatif. Plus c'est vert, plus c'est mauvais. Donc la référence, c'est le sac sorti de caisse, on va dire traditionnel, polyéthylène jetable. Le cabas, le grand cabas qu'on utilise aujourd'hui, mais si on l'utilise que deux fois, vous voyez que pratiquement partout c'est mauvais par rapport au sac polyéthylène jetable. Enfin, utiliser un cabas que deux fois, à moins que vous l'ayez déchiré, quand même. À partir de 3 fois, ça devient rentable. 20 fois, c'est quoi ? C'est pour une ménagère moyenne, c'est 6 mois. Vous allez aller au moins une fois tous les 15 jours au supermarché avec votre cabas. Et donc là, tous les impacts sont divisés par 10. Le sac papier de nos amis d'Outre-Rhin, regardez l'impact, eutrophisation, c'est-à-dire destruction des milieux naturels, si c'est rejeté en milieu naturel, 12 fois plus que le stupide sac en polyéthylène. Même quand Leclerc il dit qu'il ne veut pas les voir dans la nature. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est parce que là, on berne les gens en leur faisant croire que c'est vachement bien et qu'ils font un super geste pour la nature, c'est le sac biodégradable. Le biodégradable, ça reste quand même de la bouffe pour les bactéries. Parce que si ça se biodégrade, c'est qu'effectivement, il y a des bestioles qui le bouffent. 11 fois sur l'eutrophisation. Et encore, si c'est de l'amidon de maïs, on ne vous a pas dit que c'était du maïs OGM. Pour qu'il soit pas cher, qu'il vienne des États-Unis, il y a des chances. Ça, c'est une petite note d'espoir, c'est que même en Chine, les choses changent. Alors, l'histoire de cette photo, c'est que cette petite fille, elle était, en fait, bon, j'ai pas filmé, j'ai pris en photo, mais elle est allée voir, avec son œuf, elle est allée voir son grand-père, qui était sur le banc, je parle pas le chinois, mais j'ai compris qu'il lui a dit que ça allait dans la benne rouge. Donc, la petite fille, elle est revenue mettre sa coquille d'œuf dans la benne rouge et pas dans la benne jaune d'un côté. Bon, bah, passer aux questions. Allez-y. Voilà, ça c'était le même exemple que tout à l'heure. Hein. Donc, peut-être toute la technologie que vous avez, hein, là, pour séparer les plastiques. Là, c'est un autre cas. Toute la technologie qu'on a essayé de développer quand on a mis sur le marché des bouteilles en PET face aux bouteilles d'eau minérale que nous avions, nous, en PVC. On a développé de la technologie, sauf que, comme on l'a dit, sur ce genre de produit, il n'y a pas de stock. Donc du jour où Vittel, Evian, compagnie ont démarré l'usine de bouteilles en PET, 3 semaines après, il n'y avait plus une seule bouteille en PVC dans les supermarchés. Logique. Donc toute cette technologie, on l'a pris, on l'a mis à la casse, et on n'a plus besoin. Donc finalement, c'est même pas la low-tech du Thaïlandais qui a résolu le problème, c'est le marché. Le marché et un peu de pression écologique, c'est vrai. De nos amis Grünen, hein, mais en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, en fonction du nombre de fournisseurs, mais pour un fournisseur donné, le jour où il démarrait l'usine, 3 semaines après, il n'y avait plus de bouteilles en PVC de sa marque qui était en circulation pratiquement. Ça, c'est l'autre cas. Alors, j'ai quasiment fini, regardez, juste les jolies. Je vais finir sur des jolies photos. À terme, donc, il faudrait que la collecte sélective devienne tellement évidente, tellement transparente qu'on ne la voit plus, comme les collecteurs à Dublin. C'est joli, ça. Hein, certes, c'est du plastique. Certes, c'est du plastique qui habille le conteneur. Il n'est pas en pierre. Hein, il n'est pas taillé dans la pierre. C'est pas mal, quand même. Ou alors, d'en faire des œuvres d'art, là, c'est en Lituanie. Et puis, les usines d'incinération, si on les met en ville... Bah, voilà ce que ça donne, ça, c'est ce que j'ai en estompé ici. Vous voyez, c'est l'incinérateur de Vienne. C'est une œuvre d'art aussi, à lui tout seul. Hein. C'est du miro. Et puis alors pour finir, donc
c'est typique de chez nous, Hugues. Oui, vous connaissez par ici les papillotes? Ouais. Donc il faut toujours lire les petites histoires qu'il y a dans les papillotes. Soit il y a des conneries, soit il y a des proverbes. Et ce week-end, j'ai bouffé plein de papillotes. Parce que je commençais à lire les proverbes et j'en ai trouvé 3 qui allaient très bien pour aujourd'hui. Il est dans la nature humaine de penser sagement et d'agir de façon absurde. Je trouvais pas mal. Celle-ci, je l'ai trouvée géniale. Je trouvais parfaitement adaptée. Certains hommes parlent durant leur sommeil, il n'y a guère que les conférenciers pour parler pendant le sommeil des autres. Elle était quand même pas mal. Et puis, voilà, pour vous inciter à poser des questions, je crois que celui-là, je le mettrai dans tous mes cours. Celui qui pose une question risque 5 minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de questions restera bête toute sa vie. En tant qu'enseignant, celui-là me plaît bien. Quoi. Donc maintenant, à vous.
Oui, je veux savoir, dans tous les premières diapositives, les chiffres qui étaient mis, ça concerne tous les déchets confondus ou c'était que les déchets résidentiels, les déchets
ménagers? Il faudrait regarder. Je vais voir, c'est écrit en haut. Mais c'est en général du déchet municipal, hein. C'est-à-dire donc de l'ordure ménagère en français. Que les déchets, ce qu'on appelle les DIB, c'est-à-dire que les déchets d'emballage issus des entreprises, sont comptés à part. essentiellement dans ma rue, je suis à peu près sûr. Hein. C'est du municipal waste. Ben, ils recyclent, ils incinèrent. Si, alors aujourd'hui, ce qu'ils font, ce qui est très drôle, c'est que ils enfouissent les déchets des autres. C'est un intéressant retour de l'ascenseur. Vous n'avez pas connu ça, mais nous qui sommes un peu plus âgés, on a connu ça il y a une vingtaine d'années, le grand scandale des déchets allemands qui arrivaient dans les décharges françaises, et des déchets hospitaliers qui arrivaient discrètement. Aujourd'hui, on leur renvoie l'ascenseur, puisqu'ils stockent dans les mines de sel d'Allemagne de l'Est les cendres toxiques qui sortent de nos incinérateurs. Puisque les cendres qui sont filtrées sont toxiques, sont un déchet dangereux qui doit aller donc en ce qu'on appelle les centres de stockage de classe 1, de déchets dangereux, parce qu'ils sont riches en métaux lourds. Or, les mines de sel d'Allemagne de l'Est, au fur et à mesure qu'elles ferment, il faut les consolider, sinon ça s'effondre. Donc en fait, ils les remplissent. Et ils les remplissent de déchets. Et aujourd'hui, je ne sais pas ailleurs en France, mais je peux dire qu'il y en a au moins, donc sur Chambéry, ça coûte moins cher d'exporter les cendres toxiques en Allemagne de l'Est pour les mettre en mine de sel que de les stocker dans des centres de stockage en France. Intéressant renvoi d'ascenseur. Mais à part ça, ils ne veulent, veulent pas de décharge. Ils stockent les déchets dangereux des autres. Ceci dit, la mine de sel est censée être un truc étanche. Ce qui est vrai, la mine de sel, c'est étanche. Alors on y vient enfin, c'est-à-dire que là il y a enfin une collectivité, une grosse collectivité qui est Bourg-en-Bresse, qui va se lancer sur le modèle suédois. C'est-à-dire qu'il va se lancer non pas sur le compostage à grande échelle, mais sur la méthanisation, donc sur la collecte sélective de la fraction organique, ce qu'on appelle la FOM, hein, la fraction fermentescible des ordures ménagères, donc l'organique. Ça va enfin démarrer d'ici un an ou deux. La méthanisation va sans doute démarrer. En fait, les grands industriels, les Veolia, etc., GDF Suez, sont tous dans les starting blocks. Ce qu'ils attendent, c'est le tarif de rachat du gaz. C'est-à-dire qu'ils attendent de savoir ce qui va se passer pour le gaz, ce qui s'est passé pour l'électricité. Vous savez peut-être, vous payez, nous payons 17 centimes le kilowattheure. Il y a une obligation de rachat de l'EDF pour, par exemple, l'électricité produite par cogénération d'un incinérateur. Ce tarif de rachat, il est à peu près de 40-42 centimes. Pour mémoire, si vous produisez aujourd'hui, vous en avez peut-être entendu parler il y a une dizaine de jours, hein, en photovoltaïque, l'obligation de rachat est de 53 centimes. Si tous les projets qui ont été déposés en novembre-décembre, à toute allure, à la fin de l'année dernière, se mettaient en place, EDF serait quasiment faillite. Puisque ça leur ferait une dette de 60 milliards. Puisqu'ils s'engagent pendant 20 ans à vous racheter votre électricité à 53 centimes. Avec tous les projets qui ont été déposés là, en novembre-décembre, pour se dépêcher d'en profiter avant la fin de l'année, ça ferait 60 milliards qu'ils auraient à rembourser. Donc, ils se construisent la même chose, un tarif de rachat sur le gaz. Mais il n'est pas encore paru, le tarif de rachat sur le gaz. Dès qu'il va paraître, s'il est du même ordre, puisque les COEF que vous avez sur la facture de gaz servent à convertir les mètres cubes de gaz en kilowattheure. Donc c'est pareil. S'il est du même ordre, s'il s'est racheté une quarantaine de centimes, probablement ça devrait être ça, ces grands industriels vont se ruer sur la méthanisation. Donc il va y avoir un appel d'air sur du déchet organique. Alors, bien sûr, il y a les industries agroalimentaires et les déchets d'industrie agroalimentaire, mais il y aura un appel d'air sur l'ordure ménagère. Et comme ça aura vis-à-vis du citoyen, électeur, contribuable, payeur de taxes, qui est toujours le même bonhomme, ça a meilleure presse, ça aurait meilleure presse, ça va être mieux vu que l'incinérateur, on va s'engager là-dedans. Aujourd'hui, on est en train de déporter le problème. Aujourd'hui, on déporte le problème de l'incinérateur vers le transport. Les traitements coûtent extrêmement cher. La rentabilisation du système, c'est de faire des grosses tailles. Faire des grosses tailles, ça veut dire aller chercher des déchets loin. Donc on a déplacé le problème. C'est-à-dire qu'au lieu de multiplier les endroits où on incinère, on multiplie le transport. On augmente la quantité et la distance parcourue par les déchets. La tonne kilomètre, on augmente la tonne kilomètre de déchets. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a comme souci. Le recyclage, il fait ce qu'il peut. Mais ce n'est pas forcément la bonne filière. Moi, j'essaie de faire bosser un étudiant d'économie sur le modèle qu'on a sur Chambéry où il y a un gros réseau de chaleur. Est-ce qu'aujourd'hui, ou est-ce que dans certains cas, en fonction des fluctuations de cours, notamment l'hiver, est-ce que ça vaut le coup d'envoyer le papier carton en recyclage? Est-ce que ça ne serait pas plus intelligent de l'incinérer pour faire de la chaleur du réseau de l'eau? Je disais tout à l'heure, il n'y a pas une réponse géographique, mais à mon avis, il n'y a même pas une réponse temporelle. Il y a une réponse l'hiver, une réponse l'été, en fonction de ce que vous avez comme réseau de chauffage urbain. Vous prenez une ville comme Chambéry, qui fait 100 000 habitants. À la louche, je n'ai pas le temps de regarder, mais je dirais que ça doit faire la 40e ou 50e agglomération de France. C'est le 5e réseau de chauffage urbain. Donc il y a une grosse demande de chauffage urbain l'hiver, qui se fait certainement. Pas certainement, mais il est probable que, d'un point de vue global, ça serait peut-être plus intéressant l'hiver de brûler papier carton. Ce n'est pas faisable parce que vous n'arrivez jamais à avoir la compréhension de la démarche par le citoyen moyen.
C'est pas forcément au citoyen à choisir, au citoyen il trie, après il y aurait...
Ouais, mais le français il veut toujours mettre son nez quelque part.
Citoyen il vote avant.
Le français il veut toujours derrière, il est râleur. Donc au départ il va gueuler, mais après il le fait, mais il veut quand même continuer de surveiller parce qu'il n'a pas confiance.
Donc je confirme, je crois qu'il y a eu une étude qui avait été commanditée à l'époque par le gouvernement, en 2002, sur le recyclage du papier et du carton sur Paris. Et ils avaient fait, à l'époque, je ne connaissais pas ce que ça veut dire, une analyse de cycle de vie. Et le résultat, c'était que ça ne valait pas le coup de faire le recyclage de ça sur Paris. Et malgré tout, ils l'ont fait parce que politiquement, c'était intenable que des Verts disent qu'il faut arrêter de recycler le papier.
Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, hein. Les papeteries, les grosses papeteries qui travaillent le papier recyclé, allez, il en restait quoi, 5 en France? T'imagines la tonne kilomètre que ça fait pour transporter de Paris la papeterie la plus proche, elle doit être en Alsace, hein, ça doit être Arjomarie ou un truc comme ça, ou dans le Nord. Et c'est pas dans cette direction-là que va la Seine. Le transport maritime, le transport fluvial, ça marche pas. Mais effectivement, on ne peut pas faire passer ce message. Comme moi, je fais un cours sur les biocarburants, faire passer le message actuellement aux Français qui sont en train de se faire en papaouté, en long, en large et en travers avec le diesel et qu'on se prépare pendant 30 ans à la même catastrophe sanitaire que l'amiante. Dans 30 ans, parce qu'on s'est fait manipuler par Peugeot et Renault pour nous fourguer le moteur diesel. On donne aujourd'hui, regarde, je suis sûr que vous êtes peut-être même dans le cas sans le savoir, on donne aujourd'hui des bonus pour des petites voitures de ville, diesel, sans filtre à particules. Et on leur donne un bonus, parce qu'on calcule le bonus sur l'ensemble de la gamme. Aujourd'hui, vous avez un bonus parce que vous êtes dans les pires conditions imaginables. Vous avez un diesel qui fonctionne froid parce qu'il fait que de la ville. C'est pour que madame aille amener les enfants à l'école. qui va générer donc des polluants toxiques, que sont les SOx et les NOx, eux ils tuent. Et les particules, elles généreront des silicoses du type amiante dans 30 ans. Et on donne des bonus pour ça. Parce qu'il y a 30 ans, on a arrêté de faire de la recherche sur les moteurs essence. Et les Français ont dit, nous on est les rois du diesel. Regardez les nouvelles pubs, regardez la nouvelle pub de BMW. BMW sans faire de bruit. Sans dire depuis 30 ans qu'ils sont spécialistes du diesel, aujourd'hui ils commercialisent un modèle qui a de meilleures performances en termes de CO2 rejeté ou de consommation que le modèle d'avant-garde de Renault, la Fluence, hein, dont ils viennent de faire tout un tapage pendant ce week-end, hein, et qui n'est même pas encore en vente.
Sur les autres,
on t'en parle surtout pas, bien sûr, on te dit surtout pas, personne t'en parle, c'est comme les rejets des incinérateurs, bien sûr, on n'en parle surtout pas, parce que c'est cela, puisqu'en fait, on a fait en sorte de mettre une taxe sur le CO2 à la demande des constructeurs automobiles français, puisque effectivement, le seul bénéfice du diesel par rapport à l'essence, c'est le CO2.
J'avais une question concernant les consignes, et notamment, enfin, je sais qu'en Norvège, il y a pas mal de consignes sur les contenants, avec un effet secondaire aussi qui est intéressant, c'est que c'est propre pour tout, on ne voit pas traîner ni canettes ni bouteilles, et que les gens les ramassent et les ramènent spontanément, même si ce n'est pas la personne qui l'a acheté. Est-ce que la réutilisation du contenant elle est intéressante par rapport à son recyclage ou l'incinération?
Alors, il n'est pas forcément consigné. Enfin, il est consigné. Il faut faire attention à ce qu'on... C'est difficile pour ça, le français, parce qu'il y a deux choses. C'est consigné, mais ce n'est pas réutilisé en tant que tel. C'est-à-dire que la canette à l'U, en Suède, elle est rachetée 50...
Alors, peut-être 50 pas les canettes à l'U, mais les bouteilles plastiques, elles sont réutilisées.
Réutilisées, je ne suis franchement pas sûr.
Pourtant, on les voit toutes rayées. Ouais. C'est des bouteilles beaucoup plus épaisses.
Ah oui, les épaisses, ouais. Les épaisses qui sont faites pour, ouais. Mais vous avez la bouteille de lait anglaise, la traditionnelle bouteille de lait. Comment ils ont fait pour mettre en place ça? Ils ont dit tout le monde utilise la même. Tout le monde utilise la même et on ne colle pas d'étiquette dessus. La bouteille de lait, elle vient de la laiterie la plus proche de chez vous. C'est rigoureusement la même bouteille que vous soyez à Brighton ou à Manchester.
Et c'est très facile à faire. Le bilan, il est plutôt...
Si tu fais comme ça, ouais.
Enfin, moi, je le pensais pour le vin, par exemple, parce que les bouteilles de
bien
vin
sûr.
Sont quasiment les mêmes pour des grandes régions. Et il y a des variations de couleurs, il y a malgré tout des variations de forme. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à développer un modèle bourgogne?
Mais je vais te prendre un exemple local, qui est que les Savoyards ont fait dessiner une bouteille Savoie. Qui a la petite croix en relief, machin. Cette bouteille, elle vaut 3 fois plus cher que ce qu'on appelle une Isabelle standard. L'Isabelle, c'est la forme bouteille de blanc allongée. Personne n'a jamais eu l'idée de dire, on va les récupérer, les réutiliser. Donc ça repart, c'est recyclé, puisque c'est refondu. Mais en circuit court, le circuit court, il n'existe que dans les régions de bière, à brasserie locale. Donc finalement le modèle germano-nordique nord de la France, Alsace, où on achète encore sa caisse pour sa brasserie qui est livrée et puis on remet les bouteilles vides dedans et elles retournent à la brasserie parce qu'on est en circuit très court, elles sont lavées tout de suite. Ça nécessite un circuit court sur les produits alimentaires, c'est indispensable. Ça peut marcher que quand
même. C'est a priori une bonne solution.
Ouais, mais en circuit court, on ne sait pas
quoi. Je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête là. Le débat est passionnant, mais la fois, avec les contraintes de transport. Merci à tous de votre attention pour cette journée. Et puis on se retrouve demain, 9h, à l'Amphi Colcombet. C'est bon pour tout le monde pour savoir où ça se trouve? Non?
C'est au centre de transfert.
Juste une petite question quand même. Est-ce qu'il y a des mesures de réduction sur la production de déchets? Parce que j'ai l'impression que ça reste quand même.
Là, si tu vois, moi, je tiens pas le flacon quand on est livré, c'est-à-dire que.
Il nous reste encore 18h33.